France Inter. Amélie Perrier. Le 6-9 de l'été.
Une grande marche de la Hague, l'usine de traitement de déchets nucléaires, à Paris. Les antinucléaires veulent lancer le débat et appellent les Français, à partir de ce matin, à les rejoindre tout le long d'un parcours en 29 étapes, 500 km jusqu'à la fin août. Car la France reste alimentée en électricité nucléaire, malgré les promesses des dirigeants d'entamer la transition vers des énergies plus vertes, plus sûr. Bonjour Jean-Christophe Niel.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous dirigez l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Alors pourquoi la France reste-t-elle cramponnée à son énergie nucléaire ?
Alors l'IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, c'est l'expert public du risque radiologique et nucléaire. Et à titre d'exemple, c'est nous qui contre-expertisons les dossiers, les projets d'EDF pour l'autorité de sûreté nucléaire. Donc nous, pour nous, l'IRSN, notre priorité, c'est la sûreté. C'est que en France, il y a le plus haut niveau de sûreté. Il y a des questions de politique énergétique, comme celle que vous voulez évoquer. C'est pas le rôle de l'IRSN de répondre à ça. Nous, en tout état de cause, c'est tant qu'il y a du nucléaire, il doit avoir le plus haut niveau de sûreté. Et c'est notre travail d'expertiser les dossiers des industriels pour s'assurer de ça.
Et ce niveau de sûreté, il est suffisant aujourd'hui pour qu'on, justement, on reste sur ce nucléaire prioritaire par rapport à toutes les autres énergies?
Aujourd'hui, il n'y a pas de sujet qui nécessite d'être traité en urgence. Par contre, il y a des travaux très importants dans les années qui viennent. C'est par exemple la troisième phase des travaux suite à l'accident de Fukushima. En France, comme dans beaucoup de pays du monde, des mesures ont été prises après l'accident de Fukushima. Les premières mesures étaient plutôt des moyens mobiles, des pompes, des diesels. En France, l'autorité de sûreté nucléaire a demandé aux opérateurs de remplacer ces moyens mobiles par des moyens en dur. Et c'est des travaux qui ont lieu en ce moment. C'est aussi les travaux liés à la prolongation d'exploitation au-delà de 40 ans. Travaux très importants. Donc, pas de dossier qui nécessite pas d'urgence sur ces sujets. Par contre, des travaux très importants dans les années à venir. Je viens d'en citer deux exemples.
Alors, au début du mois, le 5 juillet, la commission d'enquête parlementaire sur le nucléaire a remis un rapport. Ce rapport pointe des failles dans le système nucléaire. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
C'est un peu la réponse que je viens de vous faire. C'est-à-dire qu'elle a notamment mentionné qu'effectivement, dans les années qui viennent, il y a des enjeux sans précédent en termes d'amélioration de la sûreté, notamment sur la prolongation d'exploitation des centrales au-delà de 40 ans. C'est des travaux que mène l'Institut aujourd'hui, qui devrait être, du point de vue de l'expertise, nous sommes un organisme scientifique et technique, notre expertise scientifique et technique, sur ce sujet de la prolongation d'exploitation au-delà de 40 ans, nous devrions la rendre en 2019.
Mais alors vous dites pour l'instant qu'il n'y a aucune crainte à avoir à court terme.
Il y a une vigilance à avoir à chaque instant. L'IRSN notamment analyse les différents incidents qui peuvent se passer et ça arrive.
Parce qu'il y en a eu quand même. Il y a Greenpeace qui, par exemple, fait entrer certains de ses militants dans des centrales. Ça, pardon, mais on se pose la question quand même de la sécurité. Il peut y avoir des attaques terroristes, par exemple, contre des centrales nucléaires en France aujourd'hui.
Bien sûr, il y a des mesures qui sont prises. C'est un système dit de défense en profondeur, comme dans la sûreté. La sûreté nucléaire, c'est les accidents, ce qu'on appelle la sécurité, c'est plutôt les terroristes. Cette démarche de défense en profondeur, elle consiste à interposer entre les gens malveillants qui souhaiteraient perpétrer un acte terroriste et la centrale, un certain nombre de ce qu'on appelle des barrières. Donc, ça commence par la confidentialité de l'information, la détection...
On vous le reproche, ça, de laisser des informations sous secret des... Enfin, on le reproche.
Alors, c'est un sujet effectivement compliqué. L'IRSN, et par la loi d'ailleurs, rend public tous ses avis à l'exception de ceux qui ont une confidentialité liée à la sécurité.
Certains sont secret défense, on ne peut pas avoir accès à toutes les informations.
Tous nos avis sont publics, sinon 850 avis par an, c'est la loi qui veut ça. Vous avez commencé votre présentation en indiquant qu'il y avait une marche qui s'engageait...
de la Hague à Paris.
Voilà, qui demandait un débat. Et l'IRSN est tout à fait dans la logique de débattre. Et d'ailleurs, nous rencontrons régulièrement les experts associatifs, les experts non institutionnels, pour échanger sur nos expertises. Donc nous sommes évidemment tout à fait ouverts à cette démarche.
Et quand Greenpeace entre comme ça dans une centrale, vous, ça vous interroge? Vous apportez des réponses?
Tout événement de ce type nécessite retour d'expérience. De la même manière qu'il y a des incidents sur les centrales, ce type d'événement nécessite aussi d'être analysé dans le détail pour voir s'il y a des enseignements à en tirer. C'est un des principes de base de la sûreté nucléaire, c'est ce qu'on appelle le retour d'expérience, l'analyse de tous les événements.
On apprenait aussi cette semaine que l'EPR de Flamanville, le réacteur nouvelle génération en chantier depuis 2004, prenait encore du retard. Il aurait dû être mis en service il y a 6 ans. Finalement, on tape maintenant sur une mise en service en 2020, avec des coûts évidemment qui explosent. Parce qu'il y a encore des malfaçons, des soucis apparemment sur les soudures. Est-ce que cette centrale, elle sera sûre un jour ?
Alors, ce qui est clair, c'est que ces anomalies qui ont été détectées sur ce qu'on appelle le circuit secondaire principal, hein, c'est un circuit qui véhicule de la vapeur. C'est une alerte sérieuse, hein, puisque cette anomalie a montré des défaillances dans la réalisation des soudures, dans le contrôle de la réalisation de ces soudures, dans la surveillance d'EDF. Hein. Aujourd'hui, EDF envisage de il y a 150 soudures, à peu près la moitié présenter des défauts. EDF prévoit d'en réparer 50. Donc ça, c'est très bien. Et sur 10 autres, il veut justifier leur maintien en état. Et ça va nécessiter un débat technique compliqué. Mais c'est notre métier à l'IRSN d'avoir ces échanges techniques pour vérifier si le maintien en état de ces dizaines de soudures est acceptable ou pas. C'est notre quotidien.
Mais vous comprenez que quand on n'est pas un expert de la sûreté nucléaire, quand on voit toutes ces malfaçons, mois après mois, on en découvre de nouvelles, on se dit qu'elle ne sera jamais sûre, cette centrale EPR ne sera jamais sûre. Enfin,
C'est clair que c'est, comme je l'ai dit, c'est une anomalie sérieuse qui soulève un certain nombre de questions. Notre objectif, et j'ai commencé mon intervention par ça, notre objectif à l'IRSN, c'est d'assurer, de contribuer à assurer le plus haut niveau de sûreté. Donc sur ces soudures, comme sur d'autres anomalies, notre métier va être de s'assurer que les réparations que propose EDF permettent bien d'atteindre un niveau de sûreté satisfaisant. Et cette installation ne démarrera pas si elle n'a pas le bon niveau de sûreté.
Mais là encore, on se pose la question, pourquoi on persiste ? Ça coûte extrêmement cher, au final, l'énergie nucléaire, quand on sait les retards, les coûts supplémentaires pour des nouveaux projets comme ça sur l'EPR.
Sur ce sujet du coût, ce n'est pas le sujet de l'IRSN. Nous, le coût n'est pas notre sujet.
Oui, mais vous dites, il faut engager des réparations. Vous rendez bien compte que
le réacteur ne peut pas, en l'occurrence, le réacteur ne peut pas démarrer avec les soudures en l'état. Il faut qu'elles soient réparées. Hein, et après, la question du coût, c'est la question de l'industriel. De la même manière, le planning pour une installation qui n'est pas encore démarrée est une question qui s'adresse à l'industriel. Nous, notre objectif à l'IRSN, c'est obtenir le plus haut niveau de sûreté. On y contribue, on est un organisme scientifique et technique, on y contribue par notre analyse scientifique et technique des informations qui nous sont données.
Jean-Christophe Niel de l'IRSN, est-ce qu'on a tiré toutes les leçons de Fukushima ?
Alors on continue à les tirer en fait. Hein. On a tiré des leçons au niveau de la sûreté des installations. Donc j'ai évoqué les dispositifs qui ont été implantés après l'accident, hein, notamment des moyens de refroidissement et d'alimentation électrique. Puisque je rappelle, Fukushima, c'est quoi ? C'est une énorme vague qui suit un séisme, qui inonde le site et qui rend inopérant à la fois les moyens électriques, c'est de l'eau salée, et qui rend inopérant les systèmes de pompage de l'eau. Une centrale nucléaire a besoin d'eau pour être refroidie, sinon elle ne fonctionne pas. Et donc, suite à l'accident de Fukushima, des mesures ont été prises. Elles continuent à être implantées, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Par ailleurs, ça a aussi conduit à une réflexion sur la gestion d'un accident dans le long terme. On voit bien qu'aujourd'hui, à Fukushima, une surface importante de territoire reste contaminée. Et la question de que faire par rapport à cette situation reste un sujet d'actualité. Là encore, l'IRSN travaille sur ce sujet.
Jean-Christophe Niel, directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. On va passer maintenant aux questions de nos auditeurs qui sont déjà nombreux au standard.
France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Est-ce que Christine est avec nous en ligne ? Bonjour Christine.
Oui, bonjour Monsieur Niel, bonjour France Inter.
Posez votre question, Christine.
Ma question est la suivante. Bien sûr, Fukushima, Tchernobyl inquiète, bien sûr, mais personnellement, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'avec les déchets nucléaires, qui sont souvent d'une très, très, très haute dangerosité et toxicité, alors même si on les enterre très, très, très profond, avec des systèmes très, très sûrs, qui finalement, un jour ou l'autre, il y a la faille, sans être pessimiste, est-ce que nous ne léguons pas aux générations futures une bombe atomique sous leurs pieds ?
C'est notamment le site Cigéo de Bure, en Moselle, la réponse de Jean-Christophe Niel.
Alors, vous indiquez que Tchernobyl et Fukushima inquiètent. L'IRSN réalise tous les ans une enquête d'opinion qui va être rendue publique en septembre. Ce qu'on va constater cette année, c'est comme l'année dernière d'ailleurs, c'est qu'effectivement les Français considèrent que dans les 10 ans qui viennent, les centrales, leur risque d'accident va augmenter. Hein. Donc ça, c'est un sondage d'opinion, c'est une perception des gens. Donc ça rejoint votre commentaire. Les déchets, c'est évidemment un sujet essentiel pour cette activité. Là encore, l'IRSN travaille sur la question de leur sûreté dans le long terme. Ces déchets, ils ont la particularité, c'est pour ça qu'il faut les traiter, d'avoir une radioactivité qui peut durer très longtemps. Hein, on parle de centaines de milliers d'années. Et aujourd'hui, la référence au niveau international, ce qui est retenu dans la plupart des pays, notamment dans les pays comme la Suède et la Finlande, c'est de les enterrer en profondeur. Alors pourquoi les enterrer en profondeur? C'est pour éviter que la radioactivité remonte à la surface. Et un des enjeux, c'est notamment d'éviter que de l'eau arrive au contact de ces déchets et entraîne cette radioactivité. C'est pour ça que c'est un site qui est choisi dans l'argile. Sur ce sujet, l'IRSN a rendu un avis il y a un an à l'autorité de sûreté sur ce qu'on appelle le dossier d'option de sûreté. C'est-à-dire que c'est un dossier à un niveau assez préliminaire encore. Ce qu'on avait dit, nous, à l'époque, c'était plusieurs choses. Un, que par rapport à ce niveau d'avancement du projet, la maturité était suffisante en termes d'analyse de sûreté. Il y avait néanmoins quelques points sensibles en termes de sûreté nucléaire, notamment la question des déchets bitumés, pour lequel nous considérions, et notre avis est public, vous pouvez le consulter, à ce stade du projet, ce risque n'était pas suffisamment maîtrisé et nécessitait que l'ANDRA, qui est l'opérateur qui va gérer ces déchets, continue le travail sur ce sujet spécifique de ces déchets bitumés.
Mais est-ce qu'on n'a pas une attitude un peu suicidaire quand même dans ce cas-là, puisque vous le dites, ces déchets seront radioactifs pendant peut-être des centaines de milliers d'années et on les garde, on ne cherche pas à s'en débarrasser d'une autre manière?
Alors aujourd'hui, les techniques alternatives ne sont pas convaincantes. On a parlé à une époque de séparation, transmutation. Quand on regarde les faits techniques, on s'aperçoit que ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire que si ça pourrait traiter éventuellement une partie de ces déchets, ça ne traitera pas l'ensemble d'entre eux. Ça conduirait par ailleurs à mettre en place des installations de surface pour faire ce processus de séparation-transmutation qui elle-même présente des risques. Donc aujourd'hui, cette solution de stockage en profondeur, c'est la solution retenue. Ces déchets sont là, donc il faut bien, il faut en termes de sûreté, il faut trouver une solution sur long terme. Aujourd'hui, ils sont entreposés. Dans des installations, ils sont surveillés, mais évidemment se pose la question du long terme,
et c'est vrai que voire du très long terme,
du très long terme, tout à fait. Et c'est des durées tout à fait inhabituelles dans des analyses comme celles que nous menons. Néanmoins, il faut traiter ce sujet, et c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à s'intéresser à ce sujet.
On retourne au standard 01 45 24 7000 avec Philippe. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Posez-t-on votre question à Jean-Christophe Niel de l'IRSN.
Voilà. Ma question, c'est est-ce qu'on est capable de donner le vrai prix de l'énergie nucléaire? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand malentendu, alors est-ce volontaire ou non, on parle toujours du prix de la production. Mais on ne connaît pas le prix du démantèlement, on ne connaît pas le prix d'un site comme Bure, combien finalement ça va coûter de stocker ces déchets. On a beaucoup d'interrogations sur tout ça, plus le prix de l'évieillissement des centrales. Alors le grand carénage nous a déjà sorti des chiffres hallucinants. Je veux pas revenir sur la réussite formidable d'Areva, qui a été sauvée de la faillite une fois de plus par le contribuable. Donc
le prix de la sûreté, Jean-Christophe.
Le prix de la sûreté, le vrai prix, c'est
le vrai
quoi
prix le prix du nucléaire. Alors, Jean-Christophe Niel vous répond.
Je vais vous répondre par une pirouette. La sûreté, elle n'a pas de prix, elle a un coût. Et ce coût n'est pas le sujet de l'IRSN. C'est-à-dire, nous, on a ce qu'on a à dire. Nous, on dit ce qu'on a à dire. Et la question de ce que ça coûte n'est pas notre sujet. Et d'ailleurs, c'est plutôt mieux, puisque si on commençait à se préoccuper de coûts, ça pourrait avoir un impact sur les expertises qu'on conduit. Alors, ça étant, la Cour des comptes a fait des analyses très sérieuses sur ces sujets. Leur rapport est disponible sur Internet. Et en ce qui concerne le démantèlement, je retiens le chiffre de la Cour des comptes. C'est pas un chiffre de l'IRSN. On n'est pas gréé pour traiter ce genre de sujet. Le coût du démantèlement qui est annoncé par la Cour des comptes, c'est 20% du coût de la construction d'un réacteur.
On passe à la question de Denis. Denis, vous êtes en ligne?
Oui, absolument.
Allez-y, je vous en prie.
Alors voilà, moi il y a quelque chose qui m'interpelle un peu, c'est que à ma connaissance, il y a un EPR chinois qui est en fonction, et puis Flamanville bégaye. Alors qu'est-ce qui se passe? Les Chinois sont meilleurs ou ils sont moins exigeants sur la sécurité?
La réponse de Jean-Christophe Niel.
Je ne sais pas répondre à cette question. Nous avons peu de contacts avec nos homologues, les IRSN chinois. Nous avons par contre beaucoup de contacts avec les Finlandais, dans beaucoup d'échanges techniques. Et nous croisons nos expériences sur divers sujets, justement pour contribuer à l'amélioration de la sûreté du réacteur.
Il n'y a pas d'harmonisation mondiale sur les questions de sûreté, de sécurité nucléaire?
L'AIEA élabore des références, mais qui restent quand même de haut niveau. C'est-à-dire ensuite, c'est décliné pays par pays de manière spécifique. Il faut quand même noter que l'Europe fait probablement la course en tête en termes de sûreté, puisqu'il y a une directive européenne sur la sûreté qui après est déclinée par les différents pays. La sûreté nucléaire reste une responsabilité nationale, mais chaque pays décline cette directive. Il y a beaucoup d'échanges échanges entre les autorités d'une part et entre les IRSN. Hein, il y a un réseau d'IRSN européen qui s'appelle European Technical Safety Organization Network, qui discute, qui échange. Donc on peut dire vraiment que l'Europe joue la course en tête en termes de sûreté nucléaire.
Et la France ?
La France est une composante tout à fait essentielle et tout à fait moteur dans la construction de cette Europe de la sûreté nucléaire.
On va passer à Fabien qui nous attend au standard. Bonjour Fabien.
Bonjour. D'abord, merci pour vos techniciens et vos standardistes, pour tout le travail qu'ils font et qu'elles font.
Merci, ma question, allez-y.
On nous dit souvent que le nucléaire est une énergie propre, je mets des gros guillemets, parce que qu'en est-il de toute la pollution que font les mines d'uranium et tout le transport d'uranium pour qu'il arrive jusqu'à nos usines propres. Voilà.
Alors l'énergie nucléaire génère des déchets, on l'a évoqué, et l'industrie minière génère aussi des sous-produits.
Merci. On passe à une autre question sur notre appli, question posée par Dominique à propos des déchets nucléaires. Je précise que le projet Cigéo de Bure est bien dans la Meuse. Ces déchets nucléaires, est-il vrai qu'avec l'EPR et son successeur, il n'y aurait plus de déchets d'une part, et d'autre part, est-il vrai qu'il pourra consommer les déchets actuels ?
Alors, ce n'est pas l'EPR. Hein. L'EPR va générer des déchets. Alors, dans les objectifs de conception, je rappelle que c'est un réacteur qui a été conçu dans les années 90. Et il a été conçu pour prendre en compte l'accident de Three Mile Island de 1978 aux États-Unis, sur lequel il y a eu un accident grave, sans conséquence, puisque l'ensemble des produits radioactifs sont restés dans le réacteur, mais néanmoins qui a conduit à beaucoup de réflexions. Et les réacteurs EPR, les réacteurs dits de génération 3, dont fait partie le père, ont pour objectif de traiter ce qui a été constaté sur le réacteur de Three Mile Island. Donc un des objectifs, c'est évidemment d'éviter les accidents graves. Un autre objectif, c'était de réduire la production de déchets, mais ça ne va pas la supprimer, puisque dans un réacteur nucléaire, vous avez du combustible. Ce combustible, il est irradié. Et donc, quand il sort du réacteur, vous avez du combustible irradié que vous devez traiter dans la durée. Donc l'EPR génère des déchets radioactifs et ne va pas consommer des déchets radioactifs existants.
Josette, également sur l'appli France Inter, elle vous demande, j'imagine que c'est à propos du projet de Flamanville, d'EPR à Flamanville. Le vrai problème n'est-il pas que la France n'ait pas construit de centrale depuis plusieurs années et qu'on ne sait plus faire ?
Alors clairement, c'est une raison tout à fait essentielle. Hein. Des projets comme le réacteur EPR sont des projets de grande ampleur. Par rapport à ce que je viens de dire sur les réacteurs de génération 3, c'est aussi des réacteurs plus complexes que les réacteurs précédents. Pourquoi ? Puisque dans les années 90, quand la réflexion s'est développée sur comment renforcer la sûreté des réacteurs, il y avait deux options qui se sont présentées aux ingénieurs concepteurs. Une option dite révolutionnaire, c'est-à-dire réfléchissons à de nouveaux modes de sûreté. Évidemment, ça peut faire des évolutions très importantes, mais avec un risque que ça marche pas comme prévu. Puis l'autre solution, c'était dite évolutionnaire. C'est-à-dire, on prend ce qui existe, on l'améliore. Le problème, c'est quand vous prenez quelque chose qui existe et vous l'améliorez, en général, vous le complexifiez. Donc, je pense que sur l'EPR, il y a deux considérations essentielles qui jouent. Le manque d'expérience, puisqu'il n'y a pas eu de réacteur construit pendant 15 ans avant l'EPR. Et d'autre part, la complexification du réacteur pour la sûreté, mais néanmoins, ça rend l'installation plus complexe à construire.
On parle également de trop nombreux acteurs sur ce chantier. Est-ce que ça pose problème en termes de sécurité ?
Alors,
la
question de la sous-traitance, si c'est à dont on parle, est une question qui d'ailleurs ne concerne pas que l'EPR. Sur le parc en fonctionnement, il faut savoir que 80% de la maintenance des gros matériels est sous-traitée. Ça peut justifier d'un point de vue industriel que ça peut faire appel à des compétences spécifiques. L'IRSN avait fait un avis en 2015, qui là encore est public sur notre site, sur lequel on avait indiqué que EDF a une politique qui devait permettre de maîtriser cette sous-traitance avec néanmoins plusieurs points de fragilité. Un de ses premiers points, c'était le fait qu'il fallait renforcer la vérification de la capacité des entreprises sous-traitantes à atteindre les objectifs de sûreté fixés par EDF. Le deuxième, c'était de renforcer la capacité de ces sous-traitants à fonctionner en cas d'aléas. Sur un chantier, il y a souvent des aléas. Et le dernier point, c'était de favoriser le retour d'expérience des sous-traitants vers EDF pour améliorer le fonctionnement. En un mot, notre conclusion, c'était de dire qu'il fallait renforcer le côté co-construction du chantier plutôt que de se limiter à une simple relation de sous-traitance avec un donneur d'ordre et un sous-traitant.
Jean-Luc nous attend au standard. Bonjour Jean-Luc.
Oui, bonjour, merci pour vos émissions. Je voudrais poser une question au directeur de la sûreté nucléaire. N'est-ce pas une folie de construire un EPR en bord de mer alors que on sait que dans les 50, 60 prochaines années, on ne maîtrise pas l'avancée de la ligne de côte?
C'est une bonne question. Deux réponses. Premièrement, les installations nucléaires ont besoin d'eau. Donc elles sont soit au bord des rivières, soit au bord de la mer. Elles ont besoin d'eau parce que voilà, c'est la physique qui dit ça. Pour qu'un réacteur fonctionne, il faut qu'il soit refroidi. Deuxième point, c'est un sujet très important. C'est le sujet de l'évolution de l'environnement des installations nucléaires. Vous évoquez un risque naturel, c'est l'inondation. Il y en a d'autres, hein. Il y a le séisme, mais il y a aussi l'environnement anthropique, l'activité humaine. Si vous avez des installations à risque à côté, il faut le prendre en compte dans l'analyse de sûreté. Et ce sujet doit être regardé par les industriels, notamment à l'occasion des réexamens de sûreté. Tous les 10 ans, les installations nucléaires font, comme pour votre voiture, font l'objet d'un contrôle technique très approfondi. Et à cette occasion-là, les industriels doivent s'assurer que l'environnement n'a pas changé, notamment que le niveau des eaux ne s'est pas élevé. Si tel était le cas, c'est leur responsabilité de prendre les mesures qu'il faut. Et ce serait à l'IRSN de les évaluer, à l'ASN de les accepter ou pas.
Beaucoup de questions au standard. Philippe nous appelle. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Posez votre question, je vous en prie.
Alors, moi c'est plutôt un constat, et je voudrais prendre un peu le contresens, parce que j'entends dire qu'EDF fait du nucléaire. En fait, EDF, son boulot, c'est surtout faire de l'énergie pour alimenter la France. Et je pense que si elle pouvait faire autre chose que du nucléaire, elle le ferait. Aujourd'hui, dans le monde, il y a l'Allemagne qui est sortie du nucléaire, mais qui produit énormément de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, enfin, à voir les températures actuelles, le vrai problème pour notre civilisation au quotidien, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, ils vont pas disparaître du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on sort, qu'on brûle de l'énergie fossile, on fabrique énormément de gaz à effet de serre qui disparaîtront dans 1000 ans ou plus.
Jean-Christophe Niel va vous répondre, oui.
C'est un commentaire, hein, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'IRSN...
Vous partagez ou pas?
L'IRSN, son boulot, c'est de faire en sorte que la sûreté soit au maximum. Les questions évoquées par Philippe sont des questions essentielles, mais pas du ressort de l'Institut, c'est des questions de politique énergétique.
Merci beaucoup, Jean-Christophe Niel, d'avoir été l'invité du grand entretien de France Inter ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Merci aussi à tous les auditeurs qui ont appelé ce matin au standard.